d'ailleurs, c'est tous les samedis à 20h. D'ici, d'ailleurs, ce sont des histoires d'étrangers, d'exilés, d'immigrés et celles de leurs enfants. Jusqu'à 21h donc, des portraits singuliers qui en disent long sur notre monde, sur notre société et notre humanité. Ce soir, il sera question de l'Espagne, de la guerre civile et de l'espoir qu'elle suscita. Il sera question de Staline, de Sans Famille et de Don Quichotte. Ce soir, il sera question d'une vie entre deux langues, l'une baroque, l'autre classique, et de la guerre entre elles deux.
D'ici, d'ailleurs, Zoé Varier, sur France Inter.
Bonsoir Lydie Salvert.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Lydie Salvert, vous êtes née à la fin des années 40 dans le sud de la France. Toute votre enfance, vous avez baigné dans l'histoire de vos deux parents, républicains, espagnols, oui, réfugiés politiques en France après la victoire de Franco. Vous êtes psychiatre, oui, et écrivain. Vous avez mis 40 ans avant de vous donner l'autorisation d'écrire. Oui. Et en 2014, vous avez reçu le prix Goncourt pour votre roman « Pas pleurer ». C'est votre parcours que nous allons évoquer ensemble ce soir.
Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Lydie Salvert, vous avez tenu à commencer cette émission avec Volver.
Oui.
Pourquoi ?
C'était la chanson que chantait ma mère lorsque j'étais enfant. Ma mère chantait merveilleusement.
Ouais.
Et dès qu'il y avait un repas de famille, un dîner un peu important, elle chantait. Mais elle chantait tout le temps et elle chantait Volver, revenir.
Donc ça vous rappelle votre mère?
Évidemment, évidemment. Avec d'autres chansons, plein d'autres chansons.
Et votre mère pensait qu'elle retournerait un jour en Espagne?
Ma mère, mon père et la plupart des républicains espagnols qui m'entouraient lorsque j'étais enfant étaient dans cette idée qu'ils allaient revenir en Espagne dès que Franco serait chassé. Et donc, ils ont vécu jusqu'à la fin des années 50 dans le provisoire et en se disant qu'il n'était là que pour un moment. On vivait dans une île.
C'est ça, une presqu'île espagnole.
En France.
En France. Quand est-ce que vos parents sont arrivés
Ils arrivent en février 1939.
C'est ça. Et ils arrivent
exactement
avec la retraite, c'est ça, ce qu'on a appelé,
ouais,
la retirada.
Ouais. La retirada. Ils arrivent. Ma mère part à pied. Depuis Barcelone,
en France, à pied,
jusqu'à la frontière pyrénéenne. Elle est mise dans un camp de concentration à Argelès-sur-Mer, dans les conditions que l'on sait.
Ah non, on laissait peu.
On laissait pas.
C'est-à-dire que les gens étaient obligés de construire eux-mêmes leurs baraquements.
Des baraquements où on dort avec une pauvre couverture, où on est je ne sais combien, dans un même endroit, dans une promiscuité extraordinaire, avec,
ouais,
ben, bref.
Parce que la France ne s'attendait pas à un tel exode, hein. C'est des
500
centaines 000, de
milliers 500 000,
d'Espagnols, ouais, qui, ouais, arrivent en France.
Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, elle va être déplacée dans un camp d'internement à Mozac.
Ouais.
C'est dans la Haute-Garonne. Puis, ils vont être hébergés par un maire communiste du Loir-et-Cher à Hautainville, où je suis née.
Ouais.
Je suis allée revoir la maison il n'y a pas si longtemps. Et où ils vont s'improviser ouvriers agricoles.
Mais ils vous racontaient tout ça? Votre mère vous racontait cette retraite?
Mais
elle vous racontait ce chemin?
Il en était, comment dire, on était immergés dans cette histoire.
Vous n'entendiez que ça?
Pas que ça, mais Tous les dimanches, la communauté des Espagnols se réunissait chez l'un ou l'autre. Il y avait d'énormes repas où ça jurait, ça chantait, ça disait des choses du sexe, de la politique. Ouais. Tout mon rapport à la langue est teinté de ça.
De ces repas.
Et il était question, oui, de la retirada et du village où ma mère vivait, et du village où un tel autre vivait. Et ma mère n'a pas eu à me raconter. C'était là, je vivais avec, dès l'enfance.
Ça se racontait, c'est ça ?
Ça se racontait.
Ça se racontait sans arrêt autour de vous.
Bien sûr.
Vos parents s'étaient engagés politiquement, ils étaient communistes.
Alors, ma mère, qui n'avait que 15 ans au début de la guerre, était très sensible aux idées libertaires défendues par son frère. Et mon père, lui, s'était engagé comme communiste dans les bataillons de Lister. Un général qui s'est réfugié en Union soviétique.
Ensuite.
Après. Oui.
Et il vous disait l'espoir, enfin vous entendiez l'espoir que ça avait suscité cette guerre.
Évidemment.
Enfin cette parenthèse.
Parce que ce qu'on sait peu, c'est qu'au moment où la guerre civile éclate une révolution libertaire dans certaines régions d'Espagne et qu'un certain nombre de villes et de villages se transforment en communes. Mmh. Où il n'est plus question de hiérarchie, de pouvoir central, où tout devrait être partagé.
Et les terres y compris.
Les terres, les biens, les récoltes. Et évidemment, ça suscite un espoir, mais incommensurable, incommensurable.
Et est-ce que ça veut dire que vous grandissiez dans cette idée de l'espoir ? Ou dans la nostalgie de cet espoir.
Il y a eu un immense désenchantement. Et un désenchantement qui s'est redoublé de notre désenchantement, c'est que quand, ça j'ai oublié de le dire aussi, c'est que après le Loir-et-Cher,
ouais.
Où mes parents restent peu, où je ne fais que naître, mon père et certains de ses amis vont essayer de reprendre une ferme où ils vont vivre sur un mode communautaire. Dans la région de Fronton. Et ça va mal se passer. Ils n'ont pas les compétences. Ils sont encore très chavirés par tout ce qui a précédé. Bref, ça va être un désastre. Donc, un désenchantement supplémentaire.
Donc vous gardez de cette enfance l'idée de cette joie, de cet espoir et du désenchantement.
Les
c'est ça
deux,
qui vous a nourri.
Mais parce que les rôles sont un peu distribués de la sorte. Ma mère, c'est plutôt...
La joie,
elle chante, elle espère, elle a confiance... en le monde, en les autres, et mon père, lui, est amer. Il est amer, très amer. Il vit une double rupture à la fois, affective, puisqu'il, lui, ne reverra plus jamais sa famille. Il rompra définitivement au moment de la guerre.
Donc c'est un homme blessé, c'est un homme brisé.
Oui, et le Parti communiste va être sa famille.
Sa bouée.
Provisoire, oui, ça bouge.
Comme pour beaucoup de communistes.
Oui, sûrement, hein. Sûrement.
Le Parti communiste a été une famille.
Oui.
D'ici, d'ailleurs, Zoé Varier sur France Inter.
Bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Thank you. salvarte mi despedía. Y empezó y esa oración, mi España, tierra querida, para siempre a día.
Lydie Salvert, vous êtes donc la fille de deux réfugiés politiques espagnols. Vous êtes née à la fin des années 40, on l'a dit tout à l'heure. Et vos parents vous ont appelée Lydia,
oui.
Et pas Lydie. C'est vous qui avez transformé votre prénom ?
Non, non. Je pense que c'est à l'état civil, c'est à la mairie. Sur mes papiers, le prénom est Lydie. On l'a francisé d'entrée.
Mais vos parents vous appelaient Lydia.
Oui, ma mère et mon père m'appelaient Lydia.
Et vous savez pourquoi ils ont choisi ce prénom ? Vous avez une idée ou pas du tout ?
Alors, je vous ai déjà parlé de l'ami de ma mère ou pas, Rose ?
Non.
C'est un prénom qui apparaît dans mes romans. Donc, après l'épisode de ferme communautaire, mes parents vont rejoindre à Hauterive, dans la Haute-Garonne, la grande amie de ma mère qui s'appelle Rose. Elles sont nées dans le même village, Fatareia,
ouais.
Les deux. Et Rose, qui est ma marraine laïque, elle lisait Nous deux à l'époque. Je ne sais pas
si
ça existe encore.
Ouais.
Et c'est elle qui donne ce prénom de Lydia, qu'elle a dû trouver dans un roman Rose, et qui a du sens pour mes parents, puisqu'il signifie combat.
Ça veut dire
Lydia
combat.
De toros, un combat de taureaux.
Ils savaient qu'il faudrait combattre pour devenir ce que vous alliez devenir, c'est ça ? C'était pour vous donner force de faire ce chemin.
Peut-être.
Peut-être ?
Peut-être.
Donc vos parents, vous me l'avez dit, votre père était ouvrier, maçon.
Il est señorito en Espagne, c'est-à-dire fils de grand bourgeois et ne faisant quasiment rien. Et il va d'abord trouver un... Enfin, il va faire divers travaux, mais installé à Hauterive, il va faire d'abord manœuvre et puis maçon.
Donc c'était un homme, comme vous l'avez dit, enfermé,
oui.
Isolé, qui ne s'est jamais remis de cette guerre.
Non, il était... Il était blessé, il était amer et il va devenir paranoïaque. Il va vivre le monde comme une menace. Et d'ailleurs, la paranoïa est un thème récurrent dans ce que j'écris.
Dans ce que vous écrivez.
Et qui est peut-être aussi la vertu des écrivains. C'est-à-dire, paranoïaque, c'est inventer une fiction pour donner du sens au monde, un sens qu'il n'a pas.
Et vous pensiez que votre père, c'est ça qu'il faisait ? Il voulait donner un sens
au monde ? Oui, à la menace qu'il vivait, au fait que vendre l'humanité le dimanche, c'était mal vu, et qu'il sentait des regards sur lui. Il s'exprimait comme une vache espagnole, on disait à l'époque.
Il parlait mal français.
Il parlait mal le français, enfin toutes ces choses qu'il vivait comme des humiliations. Moi aussi, enfant.
Oui, parce que je me disais, vous accompagniez votre père vendre l'humanité ou pas ?
Non.
Non ?
Vous
n'y alliez pas avec lui ?
On a honte.
Vous aviez honte ?
Oh, mais bien sûr.
Honte qu'il soit communiste ou honte
Honte d'habiter dans une barre HLM, honte de que mon père soit ouvrier, honte qu'il parle mal le français. Ma colère, elle vient de là. Elle vient très précisément de là. Cette injustice qu'on vit enfant, le sentiment d'infériorité qu'on vit enfant. Elle
Vous
vient
le sentiez
de là. Mais évidemment.
Dans quoi ?
Mais dans les regards, dans la façon d'être habillée, mais bien sûr.
Vous étiez mal fagotée, c'est ça ?
C'est ma mère qui faisait nos habits.
Elle était couturière ?
Elle aimait coudre, oui. Oui.
Et donc,
mais cette colère, dire encore deux mots...
Ah oui, mais on va y revenir. La colère sera là tout au long de cette...
Mais cette colère, elle est... Dans la vie quotidienne, je suis quelqu'un de très peu colérique. Mais vraiment, et c'est pas une flatterie que je m'envoie. Dès que j'écris, et ça m'est à moi-même inexplicable, elle est là.
Ça monte.
Elle revient. Mais la plupart du temps, elle se résout en rire.
Et cette colère qui monte quand vous écrivez, c'est cette colère de l'enfant dans sa barre HLM qui a honte, quoi.
Je crois. Et doublé du fait que je pense que la littérature, c'est une violence. Que la littérature, quand elle est littérature,
elle vient secouer les prêts à penser, les prêts à parler, les prêts à sentir, les prêts à dire, et qu'elle est intimement une violence. Et un jour d'ailleurs, je m'amusais à regarder les définitions qu'ont donné les grands auteurs que j'admire de la littérature. Mm-hmm. Ce sont des définitions colériques.
Comme laquelle, par exemple ?
Dostoïevski, oui. Écrire avec un fouet. Nietzsche, écrire avec du sang. Et tu verras que le sang est esprit. Mallarmé, il n'est de livre qu'une bombe. Mm-hmm. Et on pourrait, comme ça, liser Homère, la violence des récits guerriers. Lisez l'Enfer de Dante, l'Apocalypse selon Saint Jean, lisez Céline, lisez Faulkner, lisez Genet. La littérature est violente, mais parfois d'une douceur violente. Parfois, d'un calme violent. Mais pour moi, la littérature, c'est la violence. Elles sont quasiment indémêlables.
Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne ? Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs ?
Lydie Salver, c'était un extrait des actualités françaises du 10 mars 1953. Vous vous souvenez de la mort de Staline ?
Absolument, absolument. Parce que c'est la première et la dernière fois que je vois mon père pleurer.
Effondré.
Il est effondré, il est sans voix. D'abord, il ne veut pas le croire. Quand c'est annoncé par les radios françaises.
Oui, il pense que c'est de la propagande.
Oui, c'est un mensonge des capitalistes,
oui, c'est
dit-il.
Ça.
Et mais il a continué toute sa vie à dire que la radio et la télévision n'envoyaient que des mensonges capitalistes. Et oui, je vois cet homme qui nous faisait peur à l'époque.
À cause de ses crises de paranoïa.
Oui, ses colères, sa sévérité terrible, son tranchant, son côté despotique. Hein, il avait un côté despotique, ce père. Et fragile en même temps, évidemment.
Évidemment. Et là, vous le voyez s'affaisser.
Il pleure. Il pleure. Oui, oui. C'est inoubliable.
C'est inoubliable.
Ah oui, c'est inoubliable.
Certainement, vous avez pris aussi de la colère de votre père.
Sans doute,
cette
ça doit
colère,
être contagieux.
Cette colère face oui. Au monde
mais
qui n'est pas ce qu'il devrait être.
Mais sans doute.
Sans doute, hein,
sans
ça.
Doute.
Essayez de me raconter, Lydie Salver, comment vous avez fait avec cette honte pour devenir, essayer de devenir une petite fille comme une autre. Quelles ont été vos stratégies pour...
Il y a l'école.
Parce que vous ne parliez pas très bien français quand vous arrivez à l'école.
Oui, je dois parler un mélange épouvantable
de français et d'espagnol.
Et je vais apprendre le français à l'école.
Vous avez eu des instituteurs merveilleux.
Ah oui.
Des vrais.
Madame Verdier, Madame Gaget, Monsieur Fillol.
Ça vous émeut.
Oui.
Ils vous ont patiemment appris. Ils ont vu en vous votre volonté acharnée de. De vouloir être autre chose que l'enfant de...
Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais en tout cas que...
Que vous alliez écrire. Et avec
en tout
écriture.
Cas, ils m'ont... Et notamment M. Fillol,
ouais.
Il m'a largement encouragé à lire.
Et alors là, vous avez...
Il avait constitué une petite bibliothèque.
Ouais.
Et il me donnait des romans à lire.
Capi, tu m'as fait peur. En traversant la forêt cette nuit, j'ai vu un diable avec de grandes cornes. J'ai couru, mais je suis tombée. Je me suis fait mal au bras. J'ai pas osé aller plus loin. J'ai pleuré longtemps, puis je me suis endormie. J'ai rêvé que je retrouvais ma vraie maman, tu sais. Faut que je me dépêche maintenant, Chavanon, c'est loin. Adieu, Capi. Oh, t'es venu me chercher pour m'amener, Monsieur Vitalis. Je veux pas aller avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux, Capi? Je comprends pas. Écoute, Capi. Si je vais jusqu'à la route, tu me laisseras tourner chez Maman Barberin. C'est promis?
Ça. ça vous fait sourire. C'est un extrait du film Sans famille. Et Sans famille a une place importante justement dans vos lectures.
Oui, c'est un des premiers livres que je lis en entier. Je ne sais pas quel âge je dois avoir. Pas aux alentours de 10 ans, peut-être avant, je ne sais plus bien. Et c'est pour moi, mais une découverte, un bonheur. D'abord parce que ce petit garçon est orphelin, ce qui était un rêve. parce que si je me souviens bien, il est adopté par une famille, c'est ça?
Oui, hein, c'est ça, il est adopté par une famille. Et puis ensuite, il est revendu.
Je ne sais plus.
À l'Italie.
Parce que, à ce moment-là, moi qui vis la pauvreté comme une honte, eh bien, je me rends compte que pour ce petit Rémi, c'est Rémi, oui, il s'appelle, oui, en tout cas pour l'auteur de ce livre, la pauvreté n'est pas honteuse. Elle est une aventure, elle est une découverte. Et je me dis, mais les livres peuvent comme ça changer notre vision sur les choses. Je ne me le dis pas comme je vous
évidemment
le dis, mais je
travaille dans ce sens-là.
Sans doute. Je ne l'ai jamais relu. Je ne l'ai jamais relu, j'ai eu tellement peur que ce soit un mauvais livre.
Non, on a re-regardé le début,
alors,
c'est plutôt bien écrit.
C'est plutôt bien.
Ah oui, le début. Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que comme tous les autres enfants, j'avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant que mes larmes s'arrêtaient de couler. Ça commence comme ça.
Ça a dû me transporter. Ça m'a transportée.
Mais
ça m'a transportée, vraiment.
Et ensuite, vous allez découvrir les classiques et cette langue classique française pour
oui,
laquelle vous allez avoir une passion, cette langue qui se tient droite, c'est ça, hein?
Oui, la langue du bien-dire, hein, la langue mesurée, la langue élégante, la langue parfaite, celle de Pascal, enfin celle des auteurs du XVIIe et du XVIIIe que j'adore toujours autant. Et qui est l'autre pôle de mes amours littéraires. Il y a cette langue qui se tient, qui est d'une élégance folle, qui ne se laisse jamais aller au moindre excès.
Oui.
Et de l'autre,
la langue de votre mère.
La langue de ma mère, la langue de Quevedo,
oui,
baroquissime espagnol, démesurée, énorme, où ça crie,
sa gueule, plaisante, sa gueule,
où il y a du mauvais goût, du bon goût, où il y a des jeux de mots, où il y a du rire à grands éclats, voilà. Et j'aime autant l'une que l'autre, et j'ai souvent dit que tout ce que je ferai par la suite, c'est essayer de me débattre dans cette nage entre cette rive classique, magnifique,
oui,
qui n'est pas la langue moyenne du 20h, hein, qui n'a rien à voir, hein, qui est excessive dans sa perfection, hein, qui est surtout pas le juste milieu.
Non.
Et l'autre aussi excessive dans sa démesure, comme les églises baroques andalouses, c'est-à-dire qui sont profuses, on ne sait
pas, partout, c'est ça.
Voilà, et oui, cette espèce de d'excès de toutes sortes.
Et vous parlez de guerre entre ces deux
une
langues.
Une guerre amoureuse.
Oui, c'est ça, une douce
une
guerre.
Une guerre amoureuse,
hein,
oui. Et qui est toujours là.
En
c'est-à-dire
vous
que je peux me réjouir vraiment de l'imparfait du subjonctif. Je trouve que c'est très beau. Et je peux me réjouir d'une plaisanterie d'un mauvais goût abominable.
Grivoise.
Oh, mais oui.
Vulgaire.
Le mauvais goût, mais le mauvais goût assumé.
Oui.
Pas celui qui s'ignore et qui pince la bouche devant ceux qui plaisantent.
Non.
Le mauvais goût assumé qui est jubilatoire.
Bien sûr.
Et puis qui est qui est un peu dandy dans son désir de déplaire, comme dirait Baudelaire. Déplaire.
Et ça vous plaît?
Mais bien sûr.
Vous aimez déplaire?
Ah mais bien sûr. Quand je l'ose.
Quand vous l'osez, mais c'est pas tout le temps.
Quand j'écris...
Ah là oui, vous y allez.
Quand j'écris bien plus que dans la vie.
« por la blanda arena que lame el mar. Tu pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si ama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si ama él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. La, 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 la. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. La, 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 la.
C'est agréable de vous regarder quand vous écoutez chanter en espagnol. Parce que j'avais l'impression que là, Avishai Cohen vous parlait à vous toute seule. Oui. C'est-à-dire, vous étiez là, vous étiez dans un dialogue avec
lui. Mais c'est incroyable la façon dont les chansons touchent. C'est drôle. C'est pour ça que j'en ai mis dans Pas pleurer, quelques chansons.
Bien sûr, j'ai vu. Mais ce n'est pas celle qu'on écoutera dans l'émission, justement. Ouais. Donc on continue à tirer le fil avec vous, Lydie Salvert, de votre vie comme ça. La littérature vous a permis donc de faire valoir ces deux langues dont on vient de parler, que vous aviez à votre disposition. Mais avant de parler de la littérature, il s'est passé du temps avant que vous ne commenciez à écrire. Vous avez d'abord fait des études de lettres.
Oui, j'ai fait une licence de lettres modernes.
C'est ça, à Toulouse.
Oui.
Et c'était mai 68.
Oui.
Vous aviez 20 ans. Et je me demandais comment vous avez vécu cette effervescence-là. Est-ce que vous avez pensé à vos parents? Est-ce que vous êtes engagé, vous aussi, à votre tour dans 68?
Mais évidemment, j'étais dans tous les cortèges.
À gueuler votre colère.
Bien sûr. Mais j'ai fait une expérience, qui a duré, un après-midi, c'est que je me suis dit, il faut que tu t'engages peut-être davantage.
Ouais.
Mais je sais pas si c'est, si je confonds pas avec une autre période. Bref, je vais dans le local, des trotskistes, je crois, qui vendent des rouges.
Mais comment ça, vous, fille de communiste, aller dans le local des trotskistes? Ça va pas du tout.
Mais parce que il y avait là le comité Vietnam national. Et j'y vais. Et j'assiste à une réunion et je m'ennuie et j'ai l'impression qu'ils sont dans un dogmatisme, une langue de bois effarante et je ne reviendrai plus jamais au comité Vietnam national.
Et ça vous a vacciné
ma période militante a duré en tout et pour tout une demi-journée.
Ça n'a pas duré longtemps.
Non, ça me fait peur.
La foule?
Tous les consensus dogmatiques et contents de l'être.
Et l'entre-soi, une forme d'entre-soi.
Et l'entre-soi.
Une forme d'entre-soi, quand même, qu'on pouvait retrouver période.
Oui, qu'on peut retrouver en littérature aussi.
Qu'on retrouve aussi à la radio, je vous rassure.
Sans doute.
On retrouve ça un peu partout. Pourquoi vous décidez de faire des études de médecine? Pourquoi vous voulez devenir psychiatre? Parce que vous le voulez?
Oui.
Enfin, vraiment, c'est un vrai désir.
Ah oui, j'ai travaillé après donc 4 années à ne rien foutre, pour dire les choses comme elles sont en faculté de lettres, pour décrocher la première année de médecine, il fallait vraiment s'accrocher. Et je me suis accrochée comme une bête parce que je voulais être psychiatre. Je me le disais, je n'étais pas tout à fait consciente, sans doute, des raisons qui m'y poussaient. Mais sans doute, je pensais y chercher une réponse par rapport au...
À votre papa?
Sans doute. Sans doute. Or, les réponses, je les ai pas trouvées dans le savoir psychiatrique.
Non.
Je les ai trouvées dans l'ombilique des limbes d'Antonin Artaud, dans le Pesner d'Antonin Artaud, dans ses lettres où il parle du supplice que c'est de souffrir de la folie. De l'effondrement de l'âme, dit Artaud, du poison de l'âme, de l'impossibilité d'avoir une maîtrise sur sa raison, toutes ces choses terribles, et qui me font dire que s'il y a des exilés de par le monde, les fous sont peut-être les plus exilés des exilés.
Puisque ce sont des exilés de l'intérieur.
Absolument. Et donc, je vais faire quelque chose comme 10 années, je crois que ça dure, la médecine, avec l'internat.
La spécialisation,
oui.
Oui. Et après, vous travaillerez avec des adolescents. Vous vouliez travailler avec des enfants, des adolescents.
Je travaille d'abord dans une clinique psychiatrique.
Oui.
Avec des malades mentaux plutôt sévères. Et puis, où j'aurais pu rester à vie dans cette clinique. Je m'y plaisais beaucoup.
Avec
J'étais résidente. Et ça veut dire que pendant 3 jours de la semaine, j'y dormais, j'y mangeais, j'y vivais. Puis je m'arrêtais quelques jours et je reprenais. Ça s'appelait résident, psychiatre résident à l'époque. Et j'adorais regarder la télé avec les fous, manger au restaurant avec eux. Enfin, j'ai plein d'histoires comme ça, magnifiques avec... dans ce lien à eux.
Et vous en avez apaisé quelques-uns? Vous avez réussi à apaiser quelques-uns dans leur souffrance? Parce que quand même, vous étiez médecin.
J'espère.
À calmer comme ça le...
Oui, les moyens de la psychiatrie, ils sont redoutables hein, pour calmer.
Oui, vous voulez
on
dire...
Sait, on sait, la chimiothérapie psychiatrique est redoutable. Avoir un lien avec eux, c'est possible. C'est possible.
C'est pour ça que vous vous sentiez bien dans cette clinique.
Oui, et puis c'est une espèce de monde minuscule à l'intérieur d'un autre monde. Hein. Ça fonctionne comme le monde à l'extérieur, avec des amitiés, des inimitiés, des petits commerces. Il y avait du commerce de mégots, si je me souviens bien.
Avec d'autres règles.
Assez semblables, au fond.
mais protégée, fermée. Donc j'en suis partie en 81, je crois, pour travailler
avec des enfants.
Avec des enfants.
Et des adolescents.
Dans un CMPP. Ouais. Ouais, des adolescents qui sont si présents dans ce que j'écris.
Et
dessiner, etc.
Ils vous ont appris des choses, eux, ces enfants, ces adolescents avec lesquels vous avez travaillé?
J'ai appris comme j'apprends de
tous.
De tous, oui. Oui.
Et qu'est-ce qui fait qu'autour de 40 ans, vous donnez la permission d'écrire? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Qui fait qu'un jour, on se donne la permission?
Je ne sais pas.
Et pourquoi vous ne vous la donniez pas?
Oh, ça, c'est facile de savoir.
Ça, c'est parce que vous étiez une môme d'immigrée
Oui, parce que ça me semblait inatteignable. Parce
vous
que
vous sentiez légitime.
Ça semblait inatteignable à mes parents d'avoir un métier artistique. C'était pas fait.
Complexe du peincu, quoi.
Vous le résumez très bien.
C'est pas faux.
Sans doute. Mais alors, pourquoi je m'y décide? Pourquoi je vais au bout?
Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui fait que vous passez au-dessus?
30 années après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Ça a été difficile de passer au-dessus de tout ça, de toutes ces barrières.
Un jour, j'ai commencé à écrire la déclaration et je suis allée au bout. Je l'ai envoyée à un éditeur. Il a été publié.
Ça n'a pas été douloureux à écrire?
Non. Mais pour moi, écrire... Comment dire? En tout cas, ça n'est pas une besogne. Ça n'est pas quelque chose qui me coûte. C'est un bonheur, même quand c'est difficile. J'ai presque envie de dire que c'est une volupté d'écrire. Et d'ailleurs, je déteste ceux qui disent c'est dur, toi, je l'ai arraché de tripes.
Pas du tout.
Si, parfois, on l'arrache, mais. Je ne sais pas comment dire. J'aime écrire. J'aime cette chose.
Don Quichotte, voyant ce que lui peignait son imagination, commença ce beau discours en indiquant avec la main tous les objets qu'il montrait à Sancho.
Tu n'entends pas les hennissements, les coursiers, le bruit des tambours, le son des trompettes?
Je n'entends rien du tout, monsieur. Si ce n'est quelques bêlements de moutons.
Revenez donc! Oh, que va-t-il faire? Malheureux que je suis! Revenez, seigneur Don Quichotte! Revenez, jardin Dieu! Ce sont des moutons que vous attaquez! Il n'y a point là de géants, ni de chevaliers, ni de chats, ni de diables! Revenez donc!
Alors, c'était une dramatique des années 50, une dramatique maison. Et c'est parce que quand on a préparé cette émission ensemble, Didier Salvert, vous m'avez dit, j'ai mon dada du moment, et ça, je veux en parler.
Ah oui.
Et votre dada du moment, c'est ce que vous appelez la littérature du peuple.
Plus exactement, l'élection de Trump m'a amené considérablement à réfléchir sur le monde, et en particulier sur les rapports de la littérature et de ce qu'on appelle le peuple. Je m'y intéresse depuis longtemps pour avoir lu Hannah Arendt dans Qu'est-ce que la politique, et qui dit cette chose. Déjà, elle dit, si les artistes, si les intellectuels restent entre eux dans l'oasis, entre eux, bien au chaud, dans la pensée, dans l'art, dans la culture, et qu'ils ne vont pas dans le désert monde, ce qu'elle appelle le désert monde, leur oasis va s'ensabler et disparaître. Et quand je lis ça il y a longtemps, ça me fait un sacré choc de lire ça. Je lis ensuite Deleuze, qui reprenant une citation de Paul Klee, le peintre, dit « Le peuple manque. Le peuple manque. Le peuple nous manque. Nous manquons le peuple. Et le peuple nous manque. On s'est éloigné de lui. Pourquoi? Que s'est-il passé? » Voilà, ce sont mille choses à l'instant auxquelles je pense.
Mais vous êtes de ce peuple, justement.
Je me sens biologiquement,
ouais, c'est ça,
de ce peuple dont tous les salauds se réclament, évidemment, le peuple, hein, pour mieux l'abuser.
Et vous le revendiquez.
Mais comment lui tendre la main et comment lui peut-il s'emparer de la littérature? Certains l'ont fait, Pasolini le fait magnifiquement. Il le fait magnifiquement. Il donne la parole à ce peuple, à ces beaux visages. Ce que lui appelle le peuple, qui n'a rien à voir avec la masse abrutie, ou ce que...
Oui, la masse.
Hugo, dans L'année terrible, je le relisais hier, dans L'année terrible, il fait un parallèle entre le peuple, ce beau peuple, les valeurs du beau peuple, et ce qu'il appelle, lui, la foule, la populace, ceux qui se laissent emporter par le premier flatteur qui passe et le premier despote.
Mais justement, vous l'écrivez, cette langue du peuple. En tout cas, vous avez essayé. Vous avez essayé,
alors,
vous l'avez voulu.
Est-ce qu'on va au peuple en écrivant sa langue? C'est une question.
Qu'est-ce que vous avez fait dans Pas pleurer? Qu'est-ce que vous avez fait en rendant hommage à la langue de votre mère aussi, en écrivant dans cette langue mélangée?
Oui.
C'était la langue du peuple, ça c'est bien la langue du peuple. C'est à ça que vous rendez hommage, non, dans Pas pleurer ou pas?
Mais j'espère bien.
Et ça, vous le revendiquez?
Absolument. Cette langue est une sorte de bras d'honneur à la langue dominante, parce qu'elle est absolument singulière,
ouais.
parce qu'elle est inventive, qu'elle est poétique.
Elle est drôle.
Qu'elle est drôle.
Elle est vivante.
Oui.
Et que c'est la langue, que c'était la langue de votre mère. On va l'écouter. C'est Guillaume Gallienne qui dit le début de votre roman.
Oui, très
il
bien,
le lit magnifiquement.
Oui, très très bien.
Donc le début, faut le dire, c'est l'histoire de votre mère que l'on vient de présenter à son futur maître. Enfin, un homme qui aurait pu être son futur maître, chez qui elle est censée devenir bonne. Et cet homme la regarde en lui disant « C'est bien, elle a l'air modeste. » Et c'est votre mère qui parle.
Quand on se retrouve dans la rue, je me mets à gritter, moi, à crier. Elle a l'air bien modeste. Tu comprends ce que ça veut dire? Plus doucement, pour l'amour du ciel, implore ma mère qui est une femme très éclipsée. Ça veut dire, je bouillais, ma chérie. Ça veut dire que je serais une bonne, bien bête et bien obéissante. Ça veut dire que j'accepterais tous les ordres de Don Sol sans protester, que je laverais son caca sans protester. Ça veut dire que je présenterais toutes les garanties d'une perfecte idiote, que je ne rechisterais jamais contre rien, que je ne causerais aucune molesté d'aucune sorte. Ça veut dire que Don Jaume me payera des, comment tu dis, des clopinettes, et qu'en plus il me faudra dire muchísimas gracias avec cet air modeste qui me va si bien. Seigneur Jesús, murmure ma mère, la mirade alarmée. Plus bas, on va tuire. Et moi, je gritte encore plus fort. Je me fous qu'on mouille. Je veux pas être bonnie chez les Burgos. J'aime mieux faire la pute en ville. Pour l'amour du ciel, me supplique ma mère, ne dis pas ces bêtises. Ils nous ont même pas invités à nous assire, je lui dis révolté. Ni même serré la main. Je me raccorde et moi, je me rappelle brusquement que je souffre d'un panaris au pouce et que j'ai le doigt bandé. Panaris, si tu veux. Mais ne me rectifie pas chaque mot, sinon j'y arriverai jamais. Alors ma mère, pour me pacifier, me rappelle à voix susurrée les bénéfices considérables qui m'espèrent si je suis engagée, que je serai logée, que je serai nourrie et que je serai nettoyée, que j'aurai une vacation tous les dimanches pour aller danser la sardane sur la place de l'église, que je toucherai un petit salaire et une petite prime annuelle, avec quoi je pourrai me constituer un petit trousseau et même mettre de côté. À ces mots, je clame « plutôt mourir ». Dios mío, soupire ma mère en jetant des mirades angoissées sur les deux files de maisons qui bordent la ruelle. Et moi, je me mets à courir à toute vélocité vers mon grenier.
Il est bon.
Hein. Il est bon, hein.
Ouais, il est formidable.
Ça ressemble à la voix de votre mère.
Oui. J'avais été assez étonnée d'ailleurs. Mais il pratique très très bien l'espagnol.
Ah oui, donc c'est pour ça.
C'est une de ses langues.
Formidable de recevoir le prix Goncourt.
Oui.
Quand on veut rendre hommage justement à cette langue, à cette langue du peuple,
bien
non
sûr. Mais bien sûr.
Là, vous avez atteint votre... C'est ce que vous vouliez, là.
Enfin, je ne sais pas si je voulais avoir le prix Goncourt.
Non, mais je veux dire, vous avez voulu rendre hommage à cette langue et vous êtes récompensé pour ça. Ça a du sens,
Bien sûr.
Et ça apaise certainement la colère, non? Ou pas du tout?
Je ne suis pas sûr.
On voudrait revivre mais ça veut dire... On voudrait vivre encore. la même chose. Refaire peut-être encore le grand parcours, toucher du doigt le point de non-retour, et se sentir si loin, si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense que si le ciel nous laisse, on voudra vivre encore la même chose. Le temps n'est pas venu qu'on se repose. Il faut refaire encore ce que l'on aime, replonger dans le froid liquide des jours toujours les mêmes, et se sentir si loin, si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense qu'on n'a pas eu le temps de terminer le livre qu'on avait commencé hier en grandissant, le livre de la vie limpide et grimaçant, où l'on était son monde qui monte et qui descend, où l'on était son monde, le fleuve éclaboussant, où l'on est devenu anonyme passant, chevelu décoiffé, difforme se disant, on voudrait. Il est midi, mais le jour s'achève. Rien ne veut plus rien dire. Fini le rêve. On se voit se lever, recommencer, sentir monter la serre. Mais ça ne se peut pas. Ça ne se peut, non, ça ne se peut.
Lydie Salvert, c'est pas facile de parler après ce disque que vous avez choisi, je tiens à le dire. Oui. Mais on est bientôt.
Magnifique.
Magnifique, magnifique. On est bientôt au terme de cette émission et je me disais, en fait, vos parents, peut-être, ce qu'ils vous ont transmis, c'est un regard politique sur le monde, c'est le fait d'avoir un regard politique, d'être toujours en train d'essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer là, devant vous. Qu'est-ce que vous...
Mais vous savez, il disait souvent, et ça je ne l'ai jamais oublié, on a perdu une guerre, peut-être, mais on a gagné le sens de la lutte.
Ah, ça c'est magnifique.
Oui, tout le temps, tout le temps.
Et ça c'est une phrase que vous vous répétez? C'est une phrase qui vous accompagne.
Oui, c'est là, c'est là.
On a gagné le sens de la lutte.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, justement, Lydie Salvert, quel regard vous portez sur cette France d'aujourd'hui? Il y a de quoi dire.
je suis inquiète. Je suis inquiète de ce qui me semble être une montée de... Une autorisation de la haine, du racisme, de l'antisémitisme aussi, un rapport aux réfugiés que je trouve calamiteux, bref. Je suis un peu inquiète de cette part-là, mais qui n'est pas toute la France, évidemment. Hein. Il y a une belle France.
La peur de l'étranger, cette peur de l'étranger qui a ressurgi.
Oui, Oui.
Et même de cet qui étranger imaginaire hein,
qui
aussi.
Qui peut se comprendre.
Bien sûr.
Qui peut se comprendre. Mais qui est là, oui, très forte.
La et peur, on peut la comprendre. La haine, plus difficile.
Oui. C'est quand il n'y a pas de recours à la peur.
Recours, vous voulez dire de la pensée, d'une oui, de idéologique
la pensée, oui, de, d'avoir une distance critique. De...
Faudrait avoir les outils politiques pour la distance
oui,
critique.
Sans doute.
Ou un projet, un vrai projet politique
oui.
pour ce pays. C'est là-dessus que vous écrivez en ce moment ?
Oh, enfin, pas exactement là-dessus, mais pour résumer, j'aime pas trop résumer, mais justement sur la le titre provisoire qui sera peut-être définitif, c'est « Mécanique de la colère ». Comment cette colère peut devenir éventuellement dangereuse ? Ou au contraire, parce que la colère, elle peut être destructrice, mortelle, mais elle peut être féconde, elle peut être joyeuse, elle peut...
Comme pour vous, mais là, de quelle colère vous parlez dans ces mécaniques de la colère ?
De la, pour résumer, vraiment, c'est l'arrivée d'un étranger dans un petit village ouais. méridional, et tout ce que cette arrivée va susciter, de colère, entre autres.
Et de la bonne ou de la mauvaise colère ?
Mais je disais tout à l'heure à Géraldine, qui est mon attachée de presse...
Oui, qui est là dans le studio.
Combien il ne fallait surtout pas tomber dans des caricatures, évidemment. Ça serait trop facile. Et de désigner les méchants et les bons.
Absolument, sinon vous retournez
ben oui, ça
là où vous ne voulez pas être.
Absolument. Donc voilà, je travaille à ça, en ce moment.
Avec de la colère.
Oui, avec de la colère, mais avec du plaisir d'écrire et avec du rire aussi.
Oui, parce que vous aimez rire.
Ah ben oui.
Vous aimez rire.
Ben oui, oui. Je ne l'ai pas trop fait aujourd'hui.
Non, mais aujourd'hui on a parlé d'autre chose. Mais parce que moi j'aime la colère, c'est pour ça. J'ai dû vous amener plus vers la colère que vers le rire. En tout cas, merci.
Merci à vous.
Lydie Salvert d'avoir merci. Passé cette heure avec nous. Votre livre « Pas pleurer » est édité au Seuil et vous venez de sortir à nouveau, hein, c'est chez Point, votre petit traité d'éducation lubrique. Alors là, voilà, on est entre les deux, entre la colère et, oui. et le rire, le bon gros rire. C'était d'ici d'ailleurs une émission préparée par Alexia Lacour, réalisée par Fanny Boyon, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique ce soir, Maxime Ingrand. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'émission ou la podcaster sur franceinter.fr, surtout ne l'oubliez pas.